trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Hielpeau nous accompagne, responsable macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM et à nos côtés également Nicolas Forest. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver, directeur des investissements de Candriam. La politique est donc redevenue un driver majeur pour les marchés de la zone euro, à commencer par les actifs français, je le disais en introduction, Nicolas. Là, on regardait tous, juste avant le démarrage de l'émission, où en était le spread entre la France et l'Allemagne, qui grimpe lentement mais sûrement. On s'approche quasiment de 70 points de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du rationnel de ces mouvements de marché en place depuis lundi et l'annonce de la dissolution dimanche soir de l'Assemblée nationale française? La question étant, est-ce que 65, 70 points de base, c'est un pricing correct du risque ou des incertitudes générées par cette décision du président français, ou est-ce que c'est un point d'étape qui peut nous amener au-delà des niveaux connus aujourd'hui?
Alors, est-ce que la situation est une situation de crise aujourd'hui? Non. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. Certes, il y a un écartement du spread.
De crise de marché, j'entends.
De crise de marché, mais le taux d'intérêt français, si on le compare par rapport à vendredi, finalement, en taux absolu, ça peut bouger. Est-ce que la situation est sérieuse? Oui. Elle est très sérieuse. Elle est très sérieuse parce que la dernière fois qu'on a été à ce niveau-là, d'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, c'était en 2017. En 2017, quand Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle et était favorable, je vous le rappelle, et vous vous en souvenez, à la sortie de la zone euro de la France.
Potentiellement au deuxième tour face à Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens très bien de la séquence. Ce sont des sondages qui commençaient à suggérer l'idée que le second tour se fasse entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui a commencé à vraiment faire décaler le spread.
Exactement. Donc on est maintenant revenu, on est en train de revenir dans cette situation-là. Et somme toute, on peut dire, écoutez, est-ce que c'est très, très, très embêtant? Faut-il s'en inquiéter? Eh bien, moi, je reste inquiet. Depuis lundi, nous, on est devenu négatif sur les OAT. Et à ces niveaux-là, nous restons inquiets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les scénarios politiques, et c'est difficile, on essaye forcément un peu de faire des projections et de la politique fiction, il y a deux, trois scénarios qui se dessinent. Le premier scénario, c'est un scénario où il y a une majorité du Rassemblement national qui devient donc une majorité
absolue
ou même relative. On a un Premier ministre Rassemblement National et c'est la politique économique du Rassemblement National qui sera implémentée. Aujourd'hui, elle est incertaine, mais l'Institut Montaigne avait quand même pricé et mis en lumière des dépenses significatives et un fort écartement du budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un dérapage donc. Incertitude qui peut tout à fait être résolue le jour où ils seront au gouvernement, mais cette incertitude est là. Quelle politique budgétaire avec Jordan Bardella, Premier ministre, aujourd'hui, le marché ne le sait pas. Le deuxième scénario, c'est un scénario où il n'y a pas de majorité. Et nous serions dans une situation avec encore plus d'incertitudes, car s'il n'y a pas de majorité, quel budget en 2025 pourrait être décidé par une assemblée encore plus clivante?
Donc, encore moins de contrôle que ce qu'on peut avoir dans l'Assemblée aujourd'hui, telle qu'elle s'est
exprimée
en 2022.
Et le troisième scénario, c'est le scénario d'une victoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Front Populaire, dont l'ensemble des mesures, la retour à la retraite à 60 ans, les baisses de taux de TVA aussi, ça c'est commun, c'est le Front National qui voulait ça au niveau de l'électricité, qui sont aussi des mesures extrêmement dépensières. Dans ce moment de crise politique, à tous les étages, nous sommes plutôt dans une logique de dépenses publiques. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un territoire où tout va bien. Je vous disais la phrase de Patrick de Villejean, nous étions dans une pièce avec une fuite de gaz et le président a craqué une allumette pour y voir clair.
Donc ça, c'était référence à la dissolution de 1997 de Jacques Chirac.
Par Jacques Chirac. Mais la situation aujourd'hui, il y a une fuite de gaz. Et la fuite de gaz, c'est quoi? C'est la politique budgétaire française. Nous avons un déficit de 5,5% qui a été revu avec un écart de correction qu'on n'a jamais vu depuis des années, avec les agences de notation qui ont déjà mis un warning. Donc, sans parler de la fin du monde, on peut tout à fait avoir un spread qui va à 80 points. Et là, les impacts peuvent être plus importants. Et d'ici le deuxième tour, c'est quand même compliqué de voir de la certitude, de voir des éléments pour rassurer le marché.
Bon, commentaires, réactions à cette situation, à ce choc d'incertitude, cette incertitude envahissante pour quand même une économie majeure de la zone euro. Il y a la situation française et les conséquences également qu'on pourrait retrouver au niveau européen sur des politiques européennes de long terme avec des efforts importants qui sont quand même conduits je sais pas, sur des politiques de défense, de transition, etc. etc. Il y a beaucoup d'angles à traiter, mais je vous laisse la parole, Mabrouk.
Alors, la question déjà, enfin le parallèle par rapport aux élections présidentielles, cette remontée du spread, l'évocation du Frexit, je pense qu'on se trompe de combat, c'est pas du tout en fait ce qu'il faut évoquer. Le marché price déjà en fait le dérapage budgétaire, en fait c'est ça en fait qui est en train de se jouer. Vous citiez l'Institut Montaigne, effectivement, il y a un premier chiffrage basé sur le programme présidentielle de Marine Le Pen, qui va être, on va dire, une espèce de copier-coller de ce que veut faire Jordan Bardella s'il arrive au pouvoir. On est à peu près sur des dépenses non financées, puisque c'est, en fait, c'est ça qui compte. Hein. Donc, on faisait le parallèle avec le mini-budget de Liz Truss, qui a déclenché, entre guillemets, l'hystérie obligataire, finalement, sur le marché britannique. C'est 60 milliards, effectivement, qui ne seront pas financés, dans un contexte où, on rappelle que Bruno Le Maire cherchait déjà encore 20 milliards avant les élections pour pouvoir, effectivement...
C'est deux fois plus que les baisses d'impôts non financés de Liz Truss.
Oui, c'est ça.
Non, mais on a non, milliards voilà, pour donner l'ordre de grandeur.
60 milliards, effectivement, de dépenses non financées. Là, on
parle d'un programme papier, hein, enfin, effectivement. C'est... Oui, non, on verra ce qu'il en reste. Mais
il n'en restera rien, puisque finalement, à mon sens, globalement, ce qui se passe. Non, mais il faut là aussi, quand on vient aux affaires, on va se rendre compte de la réalité budgétaire. Ça a été évoqué. On a moins 5,5 de déficit. On est déjà quasiment on est vraiment au-delà des clous budgétaires du pacte de stabilité, qui certes, effectivement, a rajouté déjà finalement un peu de flexibilité, donné un peu plus de latitude au pays en cas de dérapage, en cas d'augmentation significative du déficit. Mais à 5,5%, on ne peut pas faire grand-chose. Et on le voit bien, quel que soit finalement le bord politique, et on ne sait pas finalement quelle va être la coloration politique de ce gouvernement. Rassemblement national, on enterre peut-être un peu trop vite finalement la majorité présidentielle qui pourra effectivement sur un malentendu jouer le rôle d'arbitre.
Un bloc centriste,
donc,
oui.
Voilà, donc enfin qui pourra effectivement faire la pluie et le beau temps au niveau de ce nouveau gouvernement et au niveau législatif. D'où la paralysie finalement législative et donc l'absence de dérive budgétaire, parce que qu'est-ce qui se passe comme en Belgique quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de gouvernement finalement, en tout cas un gouvernement sérieux, bah finalement il ne se passe pas grand-chose. Mais en tout cas tout ça pour dire que ce soit finalement le Front Populaire ou le Rassemblement National, ils sont tous dans le même prisme, c'est-à-dire l'utilisation de la dépense publique, la relance par la demande. Mmh. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas le moment, finalement, dans un contexte où il n'y a pas déjà de recettes publiques nécessaires, et où en plus, on sait que cette relance par la demande est inflationniste, par ailleurs. Donc lutter, parce que ça, c'est un des grands programmes finalement du Rassemblement National contre l'inflation, en générant de l'inflation, c'est un peu paradoxal, me semble-t-il. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, in fine, l'arrivée au pouvoir dans un contexte extrêmement bloqué générera finalement de manière endogène un blocage. Il ne va pas se passer. Encore une fois, je doute de voir les dépenses publiques augmenter de manière significative, puisque, encore une fois, on n'en a pas les moyens. Et donc, il va falloir se recentrer à un moment donné sur l'existant et faire en sorte, finalement, que la situation puisse tenir. Le risque d'avoir un blocage, finalement, politique et institutionnel, il est quand même relativement fort. Et c'est ça, aujourd'hui, finalement, qui est le plus grand danger pour la France. Et vous citiez, finalement, dans un cadre européen... Finalement, le problème, c'est qu'on a d'autres enjeux. On a des enjeux sécuritaires, on a des enjeux énergétiques, on a véritablement, en fait, on a les élections américaines qui vont constituer par ailleurs un risque à l'échelle de l'Europe, et avoir une Europe divisée avec une France, on va dire, qui ne sera pas dans les clous européens, c'est problématique.
Et ça, alors, je mets de côté effectivement l'idée des dérives budgétaires, il y a une réalité à l'exercice du pouvoir qui s'appliquera, quelle que soit la personne en charge. Mais un des grands arguments qui justifie le statut de l'OAT, et pas juste chez les agences de notation, mais auprès des investisseurs globaux, c'est quand même la capacité à gouverner la France avec des institutions fortes, avec un régime stable, etc. Est-ce que là, de ce point de vue-là, il n'y a quand même pas quelque chose qui est en train de changer et qui peut faire évoluer la perception que les acheteurs de dette française ont justement des actifs français en l'occurrence ?
Mais le problème, c'est que là, il y a un risque, effectivement. Donc, ce risque, il commence à être dans les prix, effectivement, de l'OAT. On va voir, effectivement, si, globalement, les institutions françaises...
Non, mais le côté blocage institutionnel, c'est pas... C'est pas positif pour l'OAT.
Non, c'est pas positif. Mais bien sûr que non, c'est pas positif. J'ai jamais dit que c'était positif, par ailleurs. Mais le point, c'est que, est-ce que aujourd'hui, alors à 70, 100 points de base, effectivement, d'écart de taux d'intérêt avec, effectivement, la référence allemande, est-ce que c'est un problème? J'ai envie de dire, c'est le même parallèle, finalement, qu'avec l'Italie, avec la Grèce, etc. Dès qu'il y a un problème, une crise politique, une crise budgétaire en Europe, on voit les spreads, effectivement, s'envoler, et on voit, effectivement, qu'est-ce qui se passe ces derniers revenir, puisqu'on a quand même des garde-fous. On n'est pas non plus dans une zone de république bananière. Enfin, c'est pas un peu le... Aujourd'hui, on achète trop rapidement, entre guillemets, le désastre et le cataclysme. On n'est pas dans cette thématique-là. Et à chaque fois que les spreads s'écartent, on s'étonne effectivement de leur écartement, mais ils reviennent tous finalement à la normalité.
Ça se fait, pour l'instant, j'allais dire, doucement et de manière ordonnée. Hein. C'est-à-dire, le spread, il était peut-être à moins de 50 avant. On monte à 65, 70. Ça se fait graduellement depuis 3 jours.
On verra le 7 juillet.
L'Italie, on est monté à 7, 8%. Oui,
700 points de base de spread.
Se passe quelque chose,
avant
quand même.
On n'avait pas la même BCE. C'est-à-dire qu'en gros, là encore, on n'avait pas les mêmes institutions, pas la même BCE, qui aujourd'hui est pragmatique. Encore une fois, tout le monde nous dit que la BCE ne réagira pas. Je ne suis pas d'accord. Le risque d'une crise majeure en zone euro déclenchée par un des pays piliers finalement de celle-ci, il est absolument colossal.
On reviendra à quelles conditions et comment la BCE interviendrait dans un scénario de stress majeur.
Il y a un point essentiel, il n'y a pas besoin d'intervenir. Il suffit juste que la Banque centrale soit crédible et menace tout simplement qu'elle fasse quelque chose pour que ça suffise à normaliser la situation. On l'a vu par le passé, ça s'est déjà produit.
Mais sur la base de quoi ? Avec quel argument ?
Un risque effectivement non diversifiable, un risque effectivement majeur et endogène et systémique. On ne peut pas prendre ce risque.
Alors, comme je vais tourner la parole à un commentaire, Florian, sur la situation de marché. Stress très français, mais bon, on voit quand même, que l'OAT bouge plutôt avec les périphériques de concert aujourd'hui. Hein. On a changé un peu de case, en tout cas, pour cette séquence-là. Et puis, comment ce stress se propage sur les actifs européens ? Et est-ce que, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied en tant qu'investisseur, dans le sens où on commençait à parler d'un cas d'investissement européen peut-être plus favorable à la faveur d'un petit décollage macroéconomique, de quelques baisses de taux à venir de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que tout ça est mis au placard au moins pour un temps ?
Pour l'instant, pas, au sens où l'écartement des spreads s'accompagne pas d'une baisse de l'euro marquée. Aujourd'hui, on voit un effet sur les spreads français, mais on ne voit pas sur l'euro qui serait un peu la mesure d'une progression du risque systémique européen. Aujourd'hui, les actifs européens, ils restent attractifs, d'autant plus quand on voit la baisse de la journée. Le point que j'aimerais peut-être ajouter, c'est... C'est une crise franco-française, mais pas que, parce que ces partis qui commencent à avoir une émergence, en tout cas politique, plus marquée qu'à l'habitude, ils ont en commun deux choses. Un, ils veulent dépenser de l'argent, donc il y a de la dépense fiscale qui est inflationniste. Pas de chance, parce qu'on tente encore de lutter contre l'inflation et la BCE a révisé ses projections d'inflation, reconnaissant que les pressions inflationnistes en zone euro sont encore en train de progresser. Le deuxième élément, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est le protectionnisme. Il y a aussi une forme de protectionnisme qui est latent, gauche comme droite, et c'est aussi une source d'inflation. Mauvaise nouvelle pour la BCE. C'est-à-dire que si on se retrouve encore une fois dans un système un peu à la Liz Truss, on va avoir une banque centrale qui va peut-être voir encore des progressions dans les pressions inflationnistes, donc il va devoir faire son travail de banque centrale, surtout la BCE, qui n'est pas la feuille, il n'y a pas de double mandat. Et d'un autre côté, le risque fiscal, la fragmentation et la crédibilité face à ça. Souvenez-vous, la crédibilité de la Bank of England, la Banque d'Angleterre, à cette époque-là, était un peu, mise à mal, pour dire les choses gentiment. Après, la France n'a pas le même système de retraite que la Grande-Bretagne. Le système de financement, le système de retraite par capitalisation anglaise s'appuie principalement, en grande partie, sur les actifs illiquides. Et c'est ça qui a aussi généré cette vente, ces panic sales, ces ventes...
C'était le risque d'un effondrement du système de retraite britannique, derrière le chaos généré par la présentation du mini-budget.
Voilà. Le système plus le mini-budget explique l'ampleur de la réaction. Donc, en gros... Le danger pour nous de cette situation politique, pour le moment, il est plutôt du côté de la BCE qui pourrait être confrontée à faire un choix entre la fragmentation européenne et la lutte contre l'inflation. Et la BCE, c'est une très grande banque centrale. C'est pas la BOE, c'est pas une banque centrale d'une économie insulaire. C'est la deuxième plus grande banque centrale mondiale. Donc là, il y a un risque, surtout pour les gens comme nous qui avons été convaincus par l'idée qu'il y a une rotation à venir dans les actifs des actions américaines vers les actions européennes, tentant de ramener vers les choses plus marché. Mais c'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser.
Justement, quelle forme pourrait prendre l'intervention de la Banque Centrale Européenne face au risque de fragmentation aujourd'hui, généré notamment par le cas idiosyncratique français. À partir de quel niveau ça devient une mission pour la Banque Centrale Européenne et de quelle manière on opère ? Alors, avec quel programme, quel argument tout ça se retrouve devant les juristes à la fin de l'histoire. Hein. Enfin, je veux dire, quand la BCE se prépare à ce genre d'intervention, voilà, on a vu des cas, des années après, traités encore par les cours européennes de justice, constitutionnelles, Karlsruhe, etc. Donc il faut avancer quand même avec un argument et un cadre solide quand on se lance dans ce genre de mission.
Plus le besoin de discipline que la BCE doit imposer auprès des États. La discipline budgétaire, c'est aussi à la Banque centrale de l'imposer aux États. Donc il y a une espèce
Donc ce n'est pas un sauvetage sans contrepartie.
C'est pas un sauvetage sans contrepartie. Il doit y avoir progression sur les spreads qui rendent la situation française difficile à tenir. Effet boule de neige global sur l'intégralité des spreads périphériques, plus baisse de l'euro. Et lorsqu'on arrive dans ce genre de cas-là, on est capable de dire, oui, il y a un risque systémique, pas mondial, un risque systémique pour la zone euro. La zone euro, c'est ma mission, c'est le rôle de la Banque Centrale d'intervenir dans ces cas-là. Quantifier ça, ça va être difficile.
Ouais. Alors, Nicolas ?
Oui, non, moi, j'ai pas du tout dit qu'on est dans une crise systémique, dans une crise spécifique. Il me semble qu'il y a un peu un tropisme français que vous avez là dans ce que vous décrivez en disant ben oui, la BCE va intervenir. Mais enfin, il faut quand même comparer et regarder la réalité entre 2012 et 2024. La réalité, c'est que la France est en train de devenir le plus mauvais élève de l'Europe. C'est ça la réalité. 5,5% de déficit, je ne crois pas qu'il y ait un autre pays européen qui ait tellement un niveau aussi pourri. Le niveau de ratio de dette sur PIB n'a fait que se dégrader. Avec Macron, c'est plus de 20%, je crois, de plus. Quand on compare par rapport à 2012...
Tous les niveaux de déficit ont augmenté depuis 4 ans,
Nicolas. Mais pas de déficit. Aujourd'hui, si vous comparez la situation de l'Italie à la France, la situation budgétaire et de dette italienne n'est pas plus mauvaise que celle de la France. La preuve de ce que je dis, ce sont les marchés qui le disent. Aujourd'hui, le taux français, aujourd'hui, traite à un niveau, c'est-à-dire que la France... Sans dette à des niveaux plus élevés que le Portugal, proche de l'Espagne.
C'est aussi le reflet des efforts faits par ces pays-là depuis la crise souveraine, à commencer par le Portugal, la Grèce revenu investment grade, et l'Italie qui a toujours eu son excédent primaire pour gérer la situation antérieure à la création de l'euro.
Mais aujourd'hui, c'est une situation d'abord, une question d'abord française, pas spécifique, pas je veux dire systématique, mais spécifique.
Et donc c'est pas une mission pour la BCE.
Et donc, pour l'instant, moi le seul point que je dis, c'est qu'entre maintenant et le deuxième tour, dans les 15 jours qui viennent, on peut avoir de la volatilité. N'attendez pas que Zoro arrive. C'est quand même pas Christine Lagarde qui va intervenir en plein milieu des élections.
Non, je crois pas que c'était. On était dans l'idée d'un scénario qui dériverait au-delà, effectivement, de la séquence électorale.
Bien sûr, mais le risque, moi, je vois, c'est pas tellement le risque d'une crise systémique, mais c'est plutôt un lent dérapage, un re-rating de la situation française.
Donc un changement de statut de l'OAT qui s'opère.
C'est ça le risque.
Peut-être structurellement.
Aujourd'hui, c'est ça le risque. Mais je pense que, in fine, et on verra bien quand le gouvernement sera en place. Là où je vous rejoins, c'est qu'évidemment, une fois que les personnes sont en place, le bon sens l'emportera et sans doute des mesures sérieuses seront mises pour éviter que ça dérape. Mais entre maintenant et cette incertitude, eh bien, il peut y avoir un peu de dérapage. Et ce qui me semble aussi, donc ça c'est le premier point, ce qui me semble important, deuxième point, c'est que quand on voit les actifs français, les spreads de crédit, les spreads des banques, ils sont très serrés par rapport à ce qu'ils étaient en 2017. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils intègrent le risque que le OAT puisse aller à 100 points ? Pas du tout. Parce que si l'OAT s'écarte et va à 100 points contre la dette allemande, c'est tout le système français, bancaire et parapublic qui va quand même être impacté.
C'est un coût de financement généralisé qui augmente.
Donc,
c'est pour les entreprises françaises.
C'est une situation spécifique, il faut suivre, il n'y a pas de panique, ça crée des opportunités, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans la même situation que 2012, on n'est pas dans une crise systémique, c'est un point spécifique à la France. Un élève qui est déjà un petit peu faible en moyenne générale.
Alors, 2012, très bon parallèle. L'Italie, effectivement, était un cas isolé. Alors, il y avait effectivement des problématiques budgétaires, etc. Et ça a dégénéré, finalement, en crise un peu plus, on va dire, forte et beaucoup plus violente à l'échelle de la zone euro. Donc, l'idée, personne n'a effectivement prétendu que Christine Lagarde allait intervenir dans les deux semaines de la campagne. Donc, c'est pas de propos, parce que là, franchement, on nagerait en plein délire. Mais sinon, globalement, encore une fois, juste un point. Élection en Espagne, effectivement, le parti catalan commence effectivement à montrer, à faire des siennes, en voulant effectivement, en ayant des velléités d'indépendance, etc. Regardez juste en fait les achats de dettes quand la BCE effectivement avait son PEPP, de dettes espagnoles, ça a augmenté. Pourquoi ? Puisqu'effectivement, la dette espagnole était sous pression en ce moment-là. Donc oui, la BCE est pragmatique. Oui, il n'y a plus de PEPP, il n'y a plus de programme d'achat.
Oui.
Non mais d'accord, mais le problème c'est qu'il y a encore des instruments qui existent et qui permettent l'action discrétionnaire de la BCE. Oui, il y a Karlsruhe. Oui, effectivement, il y a des comptes de signalité.
Le TPI qui a été dessiné en 2022 pour être un filet de sécurité au moment où la BCE amorçait son resserrement monétaire, Christine Lagarde a toujours été très claire. Le TPI n'est pas là pour aider un pays qui ferait un choix politique intérieure ou une erreur de politique intérieure. Nous ne sommes pas là pour réparer les choix qui sont faits par un pays.
Ça, c'est très clair. Mais le problème, c'est que si les conséquences, effectivement, si on a des effets de contagion qui commencent effectivement à se manifester, là, bien évidemment, encore une fois,
l'intégrité... à un autre niveau d'alerte.
On passe à un autre niveau.
D'accord.
Mais encore une fois, personne ne dit que, quel que soit le résultat du 7 juillet, on aura le lendemain, le 8 juillet, une intervention de la BCE. C'est pas le sujet.
Non.
Le sujet, c'est de dire, attention, regardons les programmes, regardons le risque, effectivement, d'augmentation du spread, effectivement, du spread français. Et si jamais ça venait, effectivement, à contaminer les autres pays, les pays périphériques comme le soulignait Florian par exemple, là on aurait effectivement.
Et c'est pas le cas aujourd'hui. Depuis trois jours, c'est pas ce qu'on voit.
Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc globalement, on fait bien la dissociation entre la situation française et le reste de l'Europe. Même si effectivement, il y a des tensions politiques un peu partout.
Et donc du coup, le cas d'investissement européen est peut-être perturbé, j'allais dire, par cette incertitude politique, mais il n'est pas remis en cause aujourd'hui, Florian ?
Le cas d'investissement, il est lié à la reprise économique qui suit une période de faiblesse.
Et ça, ça existe toujours ? Ça va se propager encore devant nous ?
Tous les marqueurs sont là pour le moment. Vous prenez l'exemple le plus simple, je cite toujours cet exemple, c'est l'IFO allemand. Il faut regarder la composante attendue versus la
climat des affaires en Allemagne.
Quatre signaux historiques depuis la création de l'indicateur, tous justes. Reprise économique marquée du côté allemand. L'Allemagne, c'était le patient malade. Alors, il allait très bien, c'était un très bon élève, mais il avait une mauvaise bronchite pendant un temps. Et là, il est clairement en train de se... Il donne des signes qu'il est en train de se remettre et de se remettre assez rapidement. Donc, encore une fois, c'est l'usine de l'Europe, c'est le moteur, l'un des moteurs de la croissance. Sa reprise va avoir des conséquences. La BCE l'a salué lors de la révision de ses anticipations de croissance, soyons très clairs. Donc, on a une zone qui reste encore cheap, c'est-à-dire que les actions européennes, c'est quand même pas très cher. Et plus on décale...
Un peu moins, d'ailleurs, depuis 2-3 jours, oui.
Oui, exactement. Donc on a un argument de valorisation. Jusqu'à présent, il y avait une reprise de momentum, évidemment, comme vous le dites. En ce moment, on observe un petit décalage sur le marché, un décalage raisonnable sur le marché. Est-ce que c'est une opportunité d'achat ? Mais ça ne change pas fondamentalement la situation en termes de reprise de croissance des earnings. Ce qu'ont connu les États-Unis sur les 6 derniers mois, c'est probablement ce que la zone euro va connaître sur les 6 prochains mois en termes de trajectoire de earnings. Quand on achète des actions, on achète les résultats des entreprises et non pas des résultats électoraux.
Donc il n'est pas question aujourd'hui de changer les positions que vous pouvez avoir sur des actifs européens.
Ça le serait. Alors nous, on est des investisseurs on investit en termes de risque, c'est-à-dire que voilà, on est risk-based, on a des fonds de risk parity. Si on voit la volatilité des OAT progresser, alors on va s'en éloigner. On a la chance, ou la malchance, que la volatilité du monde obligataire dans son ensemble est plus élevée qu'à d'habitude. Donc, c'est vraiment pas l'endroit aujourd'hui où
j'entends.
On est sur un...
Vous avez envie d'être.
On est déjà sous-pondéré côté obligataire. On va peut-être changer notre mix parce que la volatilité des OAT va progresser plus vite que la volatilité du Bund, donc les obligations allemandes, pardon. Et c'est ce qui pourrait nous amener à nous écarter temporairement des obligations françaises. Mais dans l'ensemble, la volatilité du monde obligataire, elle plonge ses racines dans la volatilité de l'inflation globale, et cette problématique, elle est toujours là.
Vous disiez tout à l'heure, Nicolas, on est passé négatif sur l'OAT, donc la dette française. Est-ce que ça a des conséquences sur votre vue concernant d'autres actifs européens à ce stade ?
Oh là, pardon. Non, je rejoins ce que vous avez dit sur le cas européen et la reprise économique, les ISM, les PMI, qui plaident pour un rebond...
Ça reste vrai. Ce qui se passe là, encore une fois, qu'on vient de décrire, n'est pas de nature, pour l'instant en tout cas, dans la mesure dans laquelle ça se déroule, à remettre en cause cette image-là.
Non, pas le côté économique, pour l'instant, et monétaire, hein, puisque aussi le fait que la BCE a commencé ce cycle de baisse de taux, enfin ce cycle, entre guillemets, cette baisse honteuse, hein, parce qu'elle n'a pas voulu trop le dire, mais le fait qu'elle peut continuer à baisser les taux, le fait qu'il y ait une reprise économique, oui, et le fait que la valorisation est attractive, il peut tout à fait y avoir un rebond. Donc nous, on est légèrement surpondérés. Mais enfin, entre les actifs européens et les actifs américains...
L'écart s'est creusé. Hein.
Mon cœur continue à balancer, parce que, si vous voulez, malgré tout, les investisseurs internationaux vont quand même se poser des questions quand ils vont voir le résultat un petit peu des élections, malgré tout. Malgré tout. Et ça va tout de même un petit peu jouer. Et voilà. Mais pour l'instant, il n'y a aucun impact de cet épisode électoral sur l'activité. Est-ce qu'il peut y en avoir un ? Oui.
Oui. Non, mais à suivre.
Si, bien sûr. Si le Rassemblement National est à Matignon et l'extrême gauche dans la rue, il y a peut-être, ça va peut-être créer un climat plus compliqué. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout là. Et c'est un environnement qui est plutôt positif. Même si c'est vrai, il faut être attentif aux risques spécifiques français. Et à certains, il faut être sélectif quand même aussi vis-à-vis de certaines entreprises. Et certainement le secteur bancaire aussi, il faut
vous
être attentif.
Vous dites baisse de taux honteuse de la BCE. Oui. Vous doutez. Non, mais d'accord, mais bon.
J'assume.
Un, déjà, elle l'a fait alors que franchement, les données précédentes n'allaient pas forcément dans le sens. Donc, elle a quand même tenu pour une fois sa parole sur ce sur quoi elle s'était engagée. Non, mais au démarrage des hausses de taux, la parole a été trahie à certains moments.
C'est voilà. Vrai.
Non, mais vous doutez qu'il y en ait d'autres des baisses de taux de la part de la BCE ? Elles vont être de moins en moins honteuses, vont être de plus en plus glorieuses.
Je parle de baisse honteuse parce que c'est un peu caché, c'est ce que je ne saurais voir. Je baisse les taux, mais en même temps, je remonte un peu les anticipations d'inflation et je dis rien du tout. Donc, le résultat de cette baisse de taux, c'est que les taux longs ont monté.
On verra. Peut-être qu'elle a remonté les anticipations. Oui, les objectifs, enfin les projections d'inflation sont remontées. Non, mais... On verra. Peut-être qu'aussi ça donne une marge de surprise à la baisse qui peut me permettre d'être un peu plus confortable.
Bien sûr.
Je veux dire, ça facilite la création de surprises à la baisse sur l'inflation. On se fixe un objectif, on fixe des projections un peu plus élevées, et puis on va constater que finalement, l'inflation est en dessous de ce qu'on avait projeté. On continue de baisser les taux.
Oui.
Vous faites la version positive.
Faites la version positive, je veux bien, d'accord. Mais c'est vrai qu'en termes de forward guidance, de clarté, c'est pas évident pour l'investisseur.
Oui.
Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la baisse des taux de la Banque centrale et la reprise économique pourrait être favorable, par exemple, aux petites et moyennes capitalisations dont vous allez parler.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour ça, il faut vraiment qu'on ait une Banque centrale qui donne un chemin clair sur les baisses de taux et qui donne vraiment cette bulle d'oxygène. Nous attendons encore des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, mais on voit bien qu'elle est dans cette façon de gérer la politique monétaire très différente de Mario Draghi, où elle essaye de trouver des compromis. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait pour juillet ? On attend, on voit. Et donc pour l'investisseur, on n'a pas un cap très clair. Et ça d'ailleurs, les taux d'intérêt ne sont pas si à la baisse que ça.
Non, peut-être qu'au fur et à mesure, elle trouvera un peu plus de marge de manœuvre, de confort pour offrir un peu de forward guidance aux investisseurs. Encore une fois, s'il n'y avait pas de forward guidance, elle n'aurait peut-être même pas baissé les taux le 6 juin dernier. Non,
Et je pense que ce que vous avez dit aussi est très intéressant par rapport au télescopage. On est là dans la politique fiction, mais si jamais il fallait, s'il y avait un peu de tension sur les périphériques, c'est vrai que ça tilterait un petit peu la question de politique monétaire, mais on n'en est pas là.
Non, mais surtout, le point le plus important, et je pense que le terme que vous avez cité est vraiment essentiel, c'est une baisse de compromission. C'est un compromis, en fait, cette baisse de taux. Ça n'a rien à voir avec la réalité macroéconomique de la zone euro. L'année dernière, on a un accident de croissance que l'Allemagne était littéralement en récession. Donc là, globalement, ça va mieux, ça se stabilise. Et donc, quand vous regardez juste la dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, on passerait de moins 0,3 même à quelque chose d'extrêmement faible en Allemagne, mais ça suffit finalement à justifier une stabilisation, même une croissance économique qui pourrait surprendre le consensus. Et on voit bien que c'est déjà le cas depuis le début de l'année. Et sur, effectivement, l'aspect marché-action européen, là, le marché va commencer à regarder non pas finalement les résultats, enfin, du moins la croissance des bénéfices pour 2024, puisque bon, on a déjà fait une partie de l'année, mais il va se projeter pour 2025. Oui. Et là, c'est surtout, en fait, ce qui est très intéressant, les résultats des entreprises, d'ailleurs, quand on prend les indices, par exemple, nationaux, le CAC, le DAX ou le MIB, c'est très faible pour cette année. Et quand on regarde, finalement, ce qui est attendu pour 2025, c'est très fort.
C'est quoi, du plus 10 ?
Oh, même plus. Donc, même plus. Globalement, vous avez du plus 12 pour l'Allemagne, et quand on compare, effectivement, de quelque chose d'extrêmement, on va dire, flat, on va dire à 1 ou 2%, le delta, du moins la différence, fait que vous avez plus 10, qui est beaucoup plus fort qu'aux États-Unis en réalité. Et on a déjà vu des phases de déconnexion. Alors je suis d'accord que c'est très difficile, effectivement, de quitter le marché américain, c'est pas ce qu'on fait d'ailleurs, mais se dire que le marché européen peut s'affranchir finalement de ce qui se passe aux États-Unis, ça s'est déjà produit. 2022, fin 2022, le marché américain est complètement complètement stone, il est complètement flat, alors que le marché européen, lui, continue.
D'ailleurs, c'est de octobre 2022 à aujourd'hui, je n'ai pas la mesure précise, mais je ne crois pas que les indices européens soient particulièrement en retard sur les indices américains.
Hein.
Sur cette séquence-là, je pense qu'on est kiff-kiff, voire peut-être certains indices européens, au-delà de ce qu'on voit sur les indices américains.
Effectivement, de décalage. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut se produire. Et je ne serais pas étonné de voir d'ici la fin de l'année, finalement, cette Europe, effectivement, un peu bancale, un peu malade sur le plan politique, etc., bah, finalement, sur un malentendu, les investisseurs se disent, bon, il y a de la valo, finalement, il y a même un petit réservoir de croissance, et sur un malentendu, finalement, on citait effectivement le cas de, sur le cas de l'Europe qui parvient finalement à se mettre d'accord sur des plans de relance budgétaire qui profitent à certains pays, pas à d'autres, et bien finalement, si on arrive à mettre tout ça de concert, bah, ça va peut-être servir les intérêts des boîtes européennes. Et nous, c'est ce sur quoi on table, effectivement, pour la seconde partie de l'année. Mmh. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui ne change pas cette dynamique. Enfin, l'Allemagne est affectée, c'est vrai. Enfin, non, l'Europe est affectée par le canal de la France et ça affecte l'Allemagne, mais ça va non plus remettre en cause la trajectoire de croissance de l'Europe.
Toujours l'idée que les attentes sont tellement basses sur l'Europe que... incrémentalement, la moindre surprise positive peut générer des effets.
Donc, elle a affiché 0,9% de croissance.
Quoi,
tout le monde dit que c'est complètement irréel.
Moi, j'entends plein de gens qui viennent me dire, moi, je suis à 0,8, je suis à 0,9, je suis à 1.
Parfait.
Donc, les gens qui font de la conjoncture et qui font des projections, ils viennent pas me dire que c'est complètement irréalisable.
Avant la projection, finalement, les publications, on était à ce niveau-là. Et donc, on nous targuait finalement d'être un peu trop optimiste, exagérément optimiste. Le consensus a démarré à 0,5, faut pas l'oublier. Hein,
donc, c'est l'acquis déjà qu'on a pour l'année. Donc, quasiment. Donc,
fin d'année dernière, on a démarré à 0,5 alors que l'acquis est encore en dessous. D'accord. Donc, tout ça pour dire effectivement que à chaque fois que la BCE dit quelque chose, ça va pas. Donc, c'est problématique.
Oui, elle est payée pour ça, c'est le job. Hein.
Tout le monde se prosterne en disant que c'est génial, donc alors qu'il y a à boire et à manger dans ses propos.
Alors on va voir, est-ce qu'on se prosterne devant Powell? c'est la question, Florian, parce que moi j'ai eu l'impression, je l'ai écouté, j'ai bien écouté Powell, je trouve qu'il est toujours assez clair dans son discours, ils sont dans le brouillard et qu'ils veulent pas sortir de la dépendance aux données, etc., pour des questions politiques, tactiques, j'en sais rien. En tout cas, moi je constate que le marché a plutôt accordé de l'importance aux dernières données, le CPI, les données d'emploi, effectivement, alors on a revu un peu peut-être la lecture avec le dernier rapport sur le marché du travail, mais quand même, tout le faisceau d'indications qui montre le rééquilibrage du marché du travail, le PPI qui vient enfoncer le clou encore aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui fait que le marché continue d'imaginer que cet espace est en train de s'ouvrir pour la Fed.
Il y a un chemin pour baisser les taux qui est en train de se créer devant nous. On a eu 6 mois de doute. On a été surpris, je trouve, en mai dernier, de la façon qu'il a eu de communiquer, le 1er mai, le communiqué lors du FOMC. Et puis, on s'est rendu compte, en lisant les minutes, qu'en fait, les minutes étaient très différentes du FOMC. Ce qu'on vient d'avoir en termes de conférence de presse, c'est un copier-coller des minutes. On vient d'avoir une explication des minutes du meeting du mois de mai, et c'est comme ça que la Fed est en train de se positionner.
Dans lesquelles il nous disait quoi, pour nous rafraîchir la mémoire?
Il nous disait que l'inflation, c'était pas complètement fini, qu'ils continuaient à avoir une forme d'anxiété, alors que pendant la conférence de presse, dans l'ensemble, il avait l'air très à l'aise vis-à-vis de la volatilité de l'inflation. Là, il le dit clairement, on est prudent, on ne sait pas vraiment où ça va, on se rend compte qu'il y a, y a une tendance à la désinflation, mais qu'elle peut être plus chaotique que prévu. On est prêt à faire face à ça.
3-4 mauvais rapports dans la figure, donc oui.
Il y a un exercice de réalisme, c'est plutôt bien effectué. Là où je suis plus surpris personnellement, c'est l'absence de révision à la baisse de la prévision de croissance sur 2024. On voit un faisceau d'indicateurs qui sont en train de 2%, on voit un faisceau d'indicateurs qui sont en train de se rétracter ici ou là. Ça touche surtout l'industrie principalement. Il y a quelques éléments autour des services également qui vont dans ce même sens-là. On a à peu près, 60% des données qui se dégradent aux États-Unis depuis 2 mois maintenant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein, qui est
mais là aussi dans le métier du banquier central, c'est un peu ce que je disais sur la BCE tout à l'heure. Quand il dit nos projections sont encore conservatrices, etc., on fait attention aux risques, etc., est-ce qu'il n'y a pas l'idée de se dire bon, bah, je vais mettre un petit peu le niveau et de croissance et d'inflation, peut-être dans la borne haute de mes projections? Et comme ça, en cas de surprise à la baisse, je suis très à l'aise pour pouvoir, justement, vous voyez, c'est en dessous de notre scénario, ça nous donne de la place pour baisser les taux. Est-ce que c'est quand même pas ça aussi le fond de l'argument derrière ?
Il a dit, pendant la session de questions-réponses, que ces forecasts, ces prévisions en tenaient compte du rapport sur l'inflation qui venait d'être publié 6 heures auparavant.
D'accord. Donc, les forecasts du staff de la Fed.
Oui.
Mais pas forcément les projections de points faites par chaque officiel.
Non, mais
les elle dit chacun a le choix de les bouger ou de pas les bouger.
Exactement.
Visiblement, il a l'air de dire que la plupart semblaient ne pas les avoir bougés. Mais bon.
Ouais. Donc il y a, vraiment une extrême data dependence. Normalement, ces chiffres-là ne sont pas pris en compte dans les forecasts. Là, visiblement, ils l'ont été. On a vraiment envie d'être très très précis sur, sur l'évolution de rapport en rapport. Bon, globalement,
Enfin, que l'inflation soit, je regarde le corps PCE, oui, ça bouge.
20 points de base de révision.
D'accord, que ce soit 2,6 ou 2,8, ça n'empêche pas qu'il y a de la place pour ajuster au moins de 25, 50, peut-être 75 BP le réglage de la politique monétaire.
Oui, c'est un signal parce que dans le statement, on a très peu de changements. Quand vous comparez côte à côte, le statement de mai et celui de juin, on a quasiment aucune. Le message est dans les forecasts.
Oui, je comprends.
Aussi simple que ça. Ils disent, on a plus d'inflation, croissance inchangée.
Ouais.
Croissance inchangée, point d'interrogation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces calculs-là. Plus d'inflation, on l'a vu tous sur les 6 derniers mois. On a un bon rapport plus le PPI. Attention, parce que les chiffres de l'emploi étaient quand même un peu stratosphériques. Alors, on peut regarder les détails. On peut se dire qu'effectivement, le part-time job, les jobs à temps partiel. On va mal progresser. Voilà. Donc, il y a à boire et à manger. Dans l'ensemble, contrairement, je dirais quelque part, à la révision des forecasts de la BCE, on a une ligne directrice qui nous dit l'inflation, on se rend compte que c'est moins bien que ce qu'on avait prévu. Néanmoins, on est prêt à baisser une fois, voire... Alors, tout le monde dit une fois. C'est 5,1 hein, la prévision exacte. Donc, c'est une fois plus, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une baisse...
Il y a plus de membres du FOMC sur les 19 qui pensent qu'il y aura deux baisses de taux que de membres qui pensent qu'il y aura une baisse de taux cette année.
Voilà. C'est notre scénario, deux baisses de taux. Et avec ça, on ouvre la porte aussi à plus de confort en termes économiques.
Ils sont aussi data dependent qu'ils le disent, ou quand même, est-ce qu'ils commencent à avoir, avec peut-être un peu plus de confiance dans les projections et les prévisions qui sont faites? Christine Lagarde le soulignait, on a un peu plus confiance quand même dans nos modèles et dans nos prévisions d'inflation. On se trompe un peu moins depuis quelques mois. Il faut bien que ça commence quand même par quelque chose. Est-ce que ça permet quand même de se dire que même s'il y a la rhétorique de la dépendance aux données et que pour l'instant on ne veut pas relever le nez du guidon, est-ce qu'ils commencent à avoir une idée quand même du rythme, de la trajectoire, d'un éventuel taux d'arrivée également? Parce que quand on commence un mouvement, un cycle, il faut quand même avoir une idée de là où on va et à quel rythme et quelle vitesse.
Écoutez, nous, notre scénario n'a pas vraiment changé ni pour la Fed ni pour la BCE. Nous, enfin, on a un peu ajusté la Fed. On avait toujours 3 baisses BCE et on avait 2 baisses de la Fed. On reste confiant sur cette baisse de la Banque centrale américaine. La grande question pour nous, c'est celle de l'inflation, comme vous l'avez dit. Provision d'inflation pour 2024 et 2025. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une fenêtre, comme vous avez dit, un chemin qui s'ouvre pour baisser les taux? Oui. Est-ce que c'est clair le point d'atterrissage? Pour moi, pas du tout. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit, ça dépendra quand même du résultat des élections américaines. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de facteurs un peu plus moyen terme et structurels qui sont inflationnistes. Les récentes déclarations aussi qui ont eu lieu sur l'immigration par l'administration Biden, le fait qu'ils veulent resserrer la vis sur l'immigration, c'est inflationniste, puisque je crois qu'on parle de... Enfin, c'est 2 millions de migrants qui...
Ouais, 2, 3, ouais, 3 oui.
2, 3 millions,
oui.
Qui rentrent, ils veulent réduire de la moitié. Donc ça va continuer à mettre de la pression sur le marché du travail. De l'autre côté, on a quand même vu aussi un peu plus de tension dans le chip, dans les cargos et dans les livraisons à cause de risques spécifiques. Mais ça, c'est un peu plus important que prévu. Et puis, l'inflation nous a montré qu'il y avait des phénomènes temporaires. Je crois que sur les assureurs, les assurances automobiles et les autres assurances...
Oui, donc, mais ça se calme tout de suite. Oui, c'est
d'accord,
du bruit.
Mais à chaque fois, on dit « Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il y a eu ce petit chiffre, ce petit... »
Donc ça crée ma question de la forward guidance. On ne peut pas faire de la politique monétaire en attendant le prix des voitures d'occasion et le prix de l'assurance automobile qui est mesuré de plein de manières différentes, qui est à 20% d'un côté, à 5% de l'autre. C'est pas comme ça qu'on peut faire de la politique monétaire.
Mais à votre question, est-ce qu'ils sont plus confiants sur leurs projections? S'il y a une leçon qu'on a apprise, c'est que bon, les projections d'inflation, elles étaient complètement fausses par tout le monde au cours des dernières années.
C'est voilà. Un début de regain de confiance.
Est-ce qu'il y a une fenêtre pour la rentrée d'avoir une première baisse de taux? Oui. Là, je vous rejoins. Est-ce que ça sera favorable pour l'investisseur? Oui. Après, les élections américaines, sans doute.
Oui, on reparlera de tout ça.
Et on va reposer la question de la dynamique d'inflation.
Je voyais là dans les projections qu'ils font sur le long terme, des taux d'équilibre, on augmente de 20 BP, de 2,6 à 2,8. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'il y a l'idée, effectivement, que quelque chose de structurel dans le potentiel américain a évolué?
Bah oui. C'est tellement évident, globalement. Oh. Non, mais c'est une surprise.
Désolé.
Pour personne.
Désolé pour ma question ratée.
Ça fait plusieurs mois qu'on le dit, le CBO a déjà publié là-dessus, il y a une révision du potentiel de croissance.
C'est pas un débat, enfin, moi j'ai l'impression que c'est un débat.
Non, c'est pas vraiment un débat. Non, pour moi, c'est pas un débat. Quand vous avez, en fait, autant d'investissements qui sont réalisés sur le sol américain, c'est-à-dire qu'en gros, les types sont en train de... Vous avez... eu un plan d'infrastructure massif. C'est-à-dire qu'en gros, quand on rénove les infrastructures dans un
pays... La part d'investissement, elle a vraiment explosé.
Non, mais regardez,
Elle progresse.
Mais la contribution de l'investissement, alors même qu'on a des taux d'intérêt qui sont quand même à un niveau qui correspond à un resserrement monétaire, du moins des conditions monétaires extrêmement restrictives, l'investissement n'a pas disparu du paysage.
Mais la part d'investissement dans le PIB, elle reste ce qu'elle a été.
Mais
globalement, il n'y a pas de déformation de ce point de vue-là.
Il faudrait que je regarde, effectivement, mais la politique budgétaire qui a consisté finalement à inciter fiscalement les entreprises à investir, ça a forcément une conséquence sur le potentiel. L'inflation, on en parlait par ailleurs. Pourquoi est-ce que ce taux d'intérêt a été revu à la hausse? C'est tout simplement parce que structurellement, on a plus d'inflation, pour les raisons qui ont été évoquées. Et ça me semble effectivement logique. Et sur le dernier point, la Fed, globalement, elle a une fenêtre, et je suis d'accord avec Florian, les 2% ou 2,1% de croissance attendue pour cette année, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. C'est pas effectivement nouveau que la Fed tarde à réviser effectivement ses projections de croissance. On l'a déjà vu l'an dernier, ça s'est déjà produit. Oh. Et globalement, non mais on va un petit peu en dessous. Tant mieux à la limite.
Bah oui.
Tant mieux parce que ça voudrait dire
ça ouvrira l'espace de baisse de taux encore plus vite.
Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'ils attendent 4 baisses de taux l'an prochain. Donc effectivement une par trimestre.
Bah oui.
Ça voudrait dire que ils pourraient pas commencer en décembre, ils pourraient peut-être commencer en septembre, laisser un peu de temps et enchaîner effectivement sur ce rythme trimestriel.
Merci à vous trois messieurs d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natixis IM, Florian Hielpeau, Lombard Odier IM et Nicolas Forest Candriam.